Aristote, Métaphysique, livre 13, chapitre 7 à 10. Chapitre 7. Il nous faut examiner d'abord, comme nous nous le sommes proposés, si les unités sont combinables ou incombinables, et, si elles sont combinables, de combien de manières elles le sont. Il est possible qu'une unité quelconque soit incombinable avec une unité quelconque, ou bien que les unités de la dyade en soi soient incombinables avec celles de la triade en soi, et que les unités de chaque nombre premier soient ainsi incombinables entre elles. Si donc toutes les unités sont combinables et ne diffèrent pas, on a alors le nombre mathématique, et il n'y a pas d'autre nombre que celui-là, et il n'est pas possible que les idées soient des nombres. Car quel nombre serait l'homme en soi, l'animal en soi, ou toute autre idée? Il n'y a qu'une seule idée pour chaque être, une seule idée pour l'homme en soi, une seule aussi pour l'animal en soi. Et au contraire, il y a une infinité de nombres semblables et qui ne diffèrent point. Ce ne serait donc pas telle triade plutôt que tout autre qui serait l'homme en soi. D'un autre côté, si les idées ne sont pas des nombres, il est absolument impossible qu'elles existent, car de quel principe viendraient les idées? Le nombre vient de l'unité et de la dyade indéfinie. Ce sont là les principes et les éléments du nombre. Mais on ne peut pas établir un ordre de priorité ni de postériorité entre les éléments et les nombres. Si les unités sont incombinables, si toute unité est incombinable avec toute unité, alors le nombre mathématique ne peut exister, car le nombre mathématique est composé d'unités qui ne diffèrent pas, et toutes les opérations qu'on fait sur le nombre impliquent cette condition. Ni le nombre idéal, car la première dyade ne sera pas composée de l'unité et de la dyade indéfinie. Ensuite, dans les nombres, il y a un ordre de succession. Ainsi, 2, 3, 4. Quant à la dyade première, les unités qui la composent sont contemporaines sous le rapport de la production, soit, comme l'a dit le premier qui a traité cette question, qu'elle résulte de l'inégalité rendue égale, ou bien qu'il en soit autrement. D'ailleurs, si de ces deux unités l'une est antérieure à l'autre, elle sera antérieure aussi au nombre 2 composé de deux unités. Car lorsque deux choses sont l'une antérieure, l'autre postérieure à l'autre, le composé de ces deux choses est antérieur à l'une, postérieur à l'autre. Enfin, puisqu'il y a l'unité en soi qui est première, puis la première unité réelle, il y en aura aussi une seconde après celle-là, puis une troisième, la seconde après la seconde, c'est la troisième après la première unité. Et alors, les unités seront antérieures au nombre qui les embrasse. Par exemple, il faut qu'une troisième unité s'ajoute à la dyade avant qu'on ait le nombre 3, qu'une quatrième s'ajoute à la triade, puis une cinquième pour qu'on ait les nombres suivants. Aucun des philosophes dont il s'agit n'a donc pu dire que les unités étaient incombinables de cette manière. Cela, cependant, résulte de leurs principes. Or, cela est contraire à la réalité. Il est naturel de dire qu'il y a antériorité et postériorité pour les unités, s'il y a une unité première et un premier 1. De même, pour les dyades, s'il y a une première dyade. Car après le premier, il est naturel, il est nécessaire qu'il y ait le second. Et s'il y a le second, il faut qu'il y ait troisième, et ainsi de suite. Mais d'un autre côté, il est impossible d'affirmer qu'après l'unité première et en soi, il y en a en même temps et une première unité, une seconde unité et une dyade première. Or, on admet une première monade, une première unité, et on ne parle jamais de seconde ni de troisième. On dit qu'il y a une première dyade et on n'en admet pas une seconde, une troisième. Il est évident, enfin, qu'il n'est pas possible, si toutes les unités sont incombinables, que le nombre 2 lui-même, que le nombre 3 existe. Et de même pour les autres nombres. Que les unités ne diffèrent pas, ou qu'elles diffèrent toutes entre elles, il faut nécessairement que les nombres se forment par addition. Ainsi, le nombre 2 résultera de l'unité jointe à une autre unité, le nombre 3 du nombre 2 accru d'une autre unité, et de même pour le nombre 4. D'après cela, il est impossible que les nombres soient produits, comme on le dit, par la dyade et l'unité. La dyade, en effet, est une partie du nombre 3, celui-ci du nombre 4, et de même pour les nombres suivants. Le nombre 4, dit-on, qui renferme deux dyades, est venu de la première dyade et de la dyade indéterminée, toutes deux différentes de la dyade en soi. Mais si la dyade en soi n'entre pas comme partie dans cette composition, il faudra dire alors qu'une seconde dyade s'est ajoutée à la première dyade. Et la dyade, à son tour, résultera de l'unité en soi et d'une autre unité. Or, s'il en est ainsi, il n'est pas possible que l'un des éléments du nombre 2 soit la dyade indéterminée, car elle n'entend qu'une unité et non pas la dyade déterminée. Ensuite, comment, en dehors de la dyade et de la triade en soi, y aura-t-il d'autres triades, d'autres dyades? Comment seront-elles composées des premières monades et des suivantes? Tout cela n'est qu'une pure fiction. Et il est impossible qu'il y ait d'abord une première dyade et ensuite une triade en soi. Conséquence nécessaire cependant, si l'on admet l'unité et la dyade indéterminée comme élément des nombres. Si la conséquence ne peut point être acceptée, il est impossible aussi que ce soit là les principes des nombres. Telles sont les conséquences auxquelles on aboutit nécessairement, et d'autres analogues si les unités sont toutes différentes entre elles. Si les unités diffèrent dans les nombres différents et sont identiques entre elles, seulement dans un même nombre. Ici encore se présentent des difficultés, en quantité non moins grande. Ainsi, dans la décade en soi se trouvent 10 unités. Or, le nombre 10 est composé de ces unités et aussi de 2 fois le nombre 5. Et comme cette décade n'est pas un nombre quelconque, car elle n'est pas composée de deux nombres 5 quelconques, ni d'unités quelconques, il faut nécessairement que les unités qui la composent diffèrent entre elles. Si elles ne diffèrent pas, les deux nombres 5 qui composent le nombre 10 ne différeront pas non plus. Si ces nombres diffèrent, il y aura différence aussi dans les unités. Si les unités diffèrent, n'y aura-t-il pas dans le nombre 10 d'autres nombres 5? N'y aura-t-il que les deux en question? Qu'il n'y en ait pas d'autres, cela est absurde. Et s'il y en a d'autres, quels nombres 10 composeront ces nouveaux nombres 5? Il n'y a pas dans le nombre 10 un autre nombre 10 en dehors de lui-même. Et d'ailleurs, il faut nécessairement que le nombre 4 soit composé de dyades qui ne sont pas prises au hasard. car c'est la diade indéterminée qui, par son adjonction avec la diade déterminée, a, dit-on, formé deux diades. C'est avec ce qu'elle a pris qu'elle pouvait produire des diades. Ensuite, comment se fait-il que la diade soit une nature particulière en dehors des deux unités, la triade en dehors des trois unités? Car ou bien l'un participe de l'autre, comme l'homme blanc participe du blanc et de l'homme, quoiqu'il soit distinct de l'un et de l'autre, ou bien l'un sera une différence de l'autre. Ainsi, il y a l'homme indépendamment de l'animal et du bipède. Ensuite, il y a unité par contact, unité par mélange, unité par position. Mais aucun de ces modes ne convient aux unités qui composent la diade ou la triade. Mais de même que deux hommes ne sont pas un objet un, indépendamment des deux individus, de même nécessairement aussi pour les unités. Et l'on ne pourra pas dire que le cas n'est pas le même, les unités étant indivisibles. Les points aussi sont indivisibles, et cependant, les deux points pris collectivement ne sont pas quelque chose indépendamment de chacun des deux. D'ailleurs, on ne doit pas oublier que les diades sont les unes antérieures, les autres postérieures, et les autres nombres comme les diades. Car supposons que les deux diades qui entrent dans le nombre 4 soient contemporaines. Elles sont du moins antérieures à celles qui entrent dans le nombre 8. Ce sont elles qui ont produit les deux nombres 4 qui se trouvent dans le nombre 8, comme elles avaient elles-mêmes été produites par la diade. D'après cela, si la première diade est une idée, ces diades seront aussi des idées. Même raisonnement pour les unités. Les unités de la première diade produisent les quatre unités qui forment le nombre 4. Par conséquent, toutes les unités sont des idées. Et il y a dès lors des idées composées d'idées. Par suite, il est évident que les objets eux-mêmes, dont ces unités sont les idées, seront composés de la même manière. Il y aura par exemple des animaux composés d'animaux, s'il y a des idées d'animaux. Enfin, établir une différence quelconque entre les unités, c'est une absurdité, une pure fiction. Je dis fiction parce que cela va contre la notion même de l'unité. Car l'unité ne diffère, ce semble, de l'unité, ni en quantité, ni en qualité. Il faut nécessairement que le nombre soit ou égal ou inégal. Tout nombre, mais surtout le nombre composé d'unités. De sorte que s'il n'est ni plus grand ni moindre, il est égal. Or, lorsque deux nombres sont égaux, qu'ils ne diffèrent en rien, on dit qu'ils sont les mêmes. S'il n'en était pas ainsi, les diades, qui entrent dans le nombre 10, pourraient différer malgré leur égalité. Car quelle raison aurait-on de dire qu'elles ne diffèrent pas? Et puis, si toute unité jointe à une autre unité forme le nombre 2, l'unité tirée de la diade formera, avec l'unité tirée de la triade, une diade, diade composée d'unités différentes. Et alors, cette diade sera-t-elle antérieure à la triade ou postérieure? Il semble plutôt qu'elles doivent nécessairement être antérieures, car l'une de ces deux unités est contemporaine de la triade et l'autre contemporaine de la diade. Ensuite, il est vrai en général que toute unité jointe à une unité, qu'elle soit égale ou inégale, font deux. Ainsi, le bien et le mal, l'homme et le cheval. Or, les philosophes en question n'admettent pas même que cela ait lieu pour les monades. Il serait étrange d'ailleurs que le nombre 3 ne fût pas plus grand que le nombre 2. Admettons qu'il est plus grand, mais nous avons vu qu'il lui était égal, de sorte qu'il ne différera pas du nombre 2 lui-même. Mais cela n'est pas possible s'il y a un nombre qui soit premier, un autre qui soit second. Et alors, les idées ne seront pas des nombres, et sous ce rapport, ceux-là ont raison, qui disent que les unités diffèrent. En effet, si elles étaient des idées, il n'y aurait, comme nous l'avons dit plus haut, qu'une seule idée dans l'hypothèse contraire. Si au contraire, les monades ne diffèrent pas, les dyades, les triades, ne différeront pas non plus. Et alors, il faudra dire que l'on compte ainsi, 1, 2, sans que le nombre suivant résulte du précédent joint à une autre unité. Sans quoi, le nombre ne serait plus produit par la dyade indéterminée, et il n'y aurait plus d'idée. Une idée se trouverait dans une autre idée, et toutes les idées seraient des parties d'une idée unique. Ceux qui prétendent que les unités ne diffèrent pas raisonnent bien dans l'hypothèse des idées, mais non pas absolument. Il leur faut, en effet, supprimer bien des choses. Eux-mêmes, ils avoueront que, sur cette question, quand nous comptons et que nous disons 1, 2, 3, le deuxième nombre n'est-il que le premier joint à une unité ? Ou bien est-il considéré à part et en lui-même? Ils avoueront, dis-je, qu'il y a doute. Et en réalité, nous pouvons envisager les nombres sous ce double point de vue. Il est donc ridicule d'admettre qu'il y a dans les nombres une si grande différence d'essence. Chapitre 8. Avant tout, il est bon de déterminer quelle différence il y a entre le nombre et l'unité, s'il y en a une. Il ne pourrait y avoir une différence que sous le rapport de la quantité ou sous celui de la qualité. Mais on ne peut appliquer ici ni l'une ni l'autre supposition. Les nombres seuls diffèrent en quantité. Si les unités différaient elles-mêmes en quantité, un nombre différerait d'un autre, tout en renfermant la même somme d'unités. Ensuite, seraient-ce les premières unités qui seraient les plus grandes, ou bien seraient-elles plus petites? Iraient-elles en croissant, ou bien serait-ce le contraire? Toutes ces hypothèses sont déraisonnables. D'un autre côté, les unités ne peuvent pas non plus différer par la qualité, car elles ne peuvent avoir en elles aucune modification propre. Dans les nombres, en effet, on dit que la qualité est postérieure à la quantité. D'ailleurs, cette différence de qualité ne pourrait leur venir que de l'un ou du deux. Or, l'unité n'a pas de qualité. Le deux n'a qualité qu'en tant qu'il est une quantité. Et c'est parce que telle est sa nature qu'il peut produire la pluralité des êtres. Si la monade peut avoir qualité de quelque autre manière, il faudrait commencer par le dire. Il faudrait déterminer pourquoi les monades doivent nécessairement différer. Si cette nécessité n'existe pas, d'où peut venir cette qualité dont on parle? Il est donc évident que si les idées sont des nombres, il n'est pas plus possible que toutes les monades soient absolument combinables qu'il ne l'est qu'elles soient toutes incombinables entre elles. Ce que d'autres philosophes disent des nombres n'est pas plus vrai. Je veux parler de ceux qui pensent que les idées n'existent ni absolument, ni en tant que nombres, mais qui admettent l'existence des êtres mathématiques, qui prétendent que les nombres sont les premiers des êtres et qu'ils ont pour principe l'unité en soi. Il serait absurde qu'il y eût, comme ils le veulent, une unité première, antérieure aux unités réalisées, et que la même chose n'eût pas lieu aussi pour la dyade, ni pour la triade, car il y a les mêmes raisons de part et d'autre. Si donc ce qu'on dit du nombre est vrai, et si l'on admet que le nombre mathématique existe seul, il n'a pas pour principe l'unité. Cette unité, en effet, devrait nécessairement différer des autres monades, et par conséquent, la dyade primitive différerait aussi des autres dyades, et de même pour tous les nombres successivement. Si l'unité est principe, le point de vue de Platon relativement au nombre est bien plus vrai, et il faut nécessairement dire avec lui qu'il y a aussi une dyade, une triade primitive, et que les nombres ne sont point combinables entre eux. Mais d'un autre côté, si l'on admet cette opinion, nous avons montré toutes les impossibilités qui en résultent. Cependant, il faut opter entre l'une et l'autre de ces deux opinions. Si donc ni l'une ni l'autre n'est vraie, il ne sera pas possible que le nombre soit séparé. Il est évident d'après cela que le troisième système, qui admet que le même nombre est à la fois et nombre idéal et nombre mathématique, est le plus faux de tous, car ce système réunit à lui seul tous les défauts des deux autres. Le nombre mathématique n'est plus véritablement le nombre mathématique. Mais comme on transforme hypothétiquement sa nature, on est forcé de lui attribuer d'autres propriétés outre les propriétés mathématiques. Tout ce qui résulte de la supposition d'un nombre idéal est vrai aussi pour ce nombre ainsi considéré. Le système des pythagoriciens présente, sous un point de vue, moins de difficultés que les précédents. Mais sous un autre, il y a quelques difficultés qui lui sont propres. Dire que le nombre n'est pas séparé, c'est supprimer, il est vrai, un grand nombre des impossibilités que nous avons indiquées. Mais d'un autre côté, admettre que les corps sont composés de nombres et que le nombre aux composants est le nombre mathématique, voilà qui est impossible. En effet, il n'est pas vrai de dire que les grandeurs sont indivisibles. C'est précisément parce qu'elles sont indivisibles que les monades n'ont pas de grandeur. Comment donc est-il possible de composer les grandeurs d'éléments indivisibles? Or, le nombre arithmétique est composé de monades indivisibles. Et pourtant, on dit que les nombres sont les êtres sensibles. On applique au corps les propriétés des nombres, comme s'ils venaient des nombres. Ensuite, il est nécessaire, si le nombre est un être en soi, qu'il le soit de quelqu'une des manières que nous avons indiquées. Or, il ne peut l'être d'aucune de ces manières. Il est donc évident que la nature du nombre n'est point celle que lui attribuent les philosophes qui en font un être indépendant. Ce n'est pas tout. Chaque monade est-elle le résultat de l'égalité du grand et du petit, ou bien les unes viennent-elles du grand, les autres du petit? Dans ce dernier cas, chaque nombre ne vient pas de tous les éléments du nombre. Et ensuite, les monades sont différentes. Car dans les unes entre le grand, dans les autres le petit, qui est par nature le contraire du grand. D'ailleurs, quelle est la nature de celles qui font la triade? Car il y a dans ce nombre une monade impaire. C'est pour cela, dira-t-on, que l'on admet que l'unité tient le milieu entre le pair et l'impair. Soit. Mais si chaque monade est le résultat de l'égalité du grand et du petit, comment la dyade sera-t-elle une seule et même nature, étant composée de grand et de petit? En quoi différera-t-elle de la monade? De plus, la monade est antérieure à la dyade, car sa suppression entraîne celle de la dyade. La monade sera donc certainement une idée d'idée, puisqu'elle est antérieure à une idée. Et la monade première viendra elle-même d'autre chose. C'est la monade en soi qui produit la première monade. de même que la dyade indéterminée produit le nombre 2. Ajoutons qu'il faut de toute nécessité que le nombre soit ou infini ou fini, car on en fait un être séparé. Il est donc nécessairement un être dans l'une ou l'autre de ces deux conditions. Et d'abord, il ne peut pas être infini. Cela est évident, car le nombre infini ne serait ni pair ni impair. Et tous les nombres produits sont toujours ou pair ou impair. Si une unité vient se joindre à un nombre pair, il devient impair. Si la dyade indéfinie s'ajoute à l'unité, on a le nombre 2. On a un nombre pair si deux nombres impairs s'unissent ensemble. Ensuite, si toute idée répond à un objet, et si les nombres sont des idées, il y aura un objet, ou sensible, ou tout autre, qui répondra au nombre infini. Mais cela n'est possible ni d'après la doctrine même, ni d'après la raison. Dans l'hypothèse, toute idée a un objet correspondant. Mais si le nombre est fini, quelle est la limite? Il ne faut pas se contenter d'affirmer. Il faut donner la démonstration. Si le nombre idéal ne va que jusqu'à 10, comme quelques-uns le prétendent, les idées manqueront bien vite. Si, par exemple, le nombre 3 est l'homme en soi, quel nombre sera le cheval en soi? Il n'y a que les nombres jusqu'à 10 qui puissent représenter des êtres en soi. Tous les objets devront donc avoir pour idée quelqu'un de ces nombres, car seuls ils sont des substances et des idées. Mais les nombres manqueront pour les autres objets, car ils ne suffiront même pas aux espèces du genre animal. Il est évident encore que si le nombre 3 est l'homme en soi, tous étant semblables, puisqu'ils entrent dans les mêmes nombres, alors il y aura un nombre infini d'hommes. Si chaque nombre 3 est une idée, chaque homme est l'homme en soi. Sinon, il y aura seulement l'être en soi correspondant à l'homme en général. De plus, si le nombre plus petit est une partie du plus grand, les objets représentés par les monades composantes seront des parties de l'objet représenté par le nombre composé. Ainsi, le nombre 4 est l'idée d'un être, du cheval ou du blanc par exemple. L'homme sera une partie du cheval si l'homme est le nombre 2. Ensuite, il est absurde de dire que le nombre 10 est une idée, mais que le nombre 11 et les suivants ne sont pas des idées. Ajoutons qu'il existe et qu'il se produit des êtres dont il n'y a pas d'idée. Pourquoi donc n'y a-t-il pas aussi des idées de ces êtres? Les idées ne sont donc pas des causes. Il est absurde d'ailleurs que les nombres jusqu'à 10 soient plutôt des êtres et des idées que le nombre 10 lui-même. Il est vrai que ces nombres, dans l'hypothèse, ne sont pas engendrés par l'unité, tandis que c'est le contraire pour la décade. Ce qu'on cherche à expliquer en disant que tous les nombres jusqu'à 10 sont des nombres parfaits. Quant à ce qui se rattache au nombre, ainsi le vide, l'analogie, l'impair, ce sont, selon eux, des productions des 10 premiers nombres. Ils attribuent certaines choses à l'action des principes, comme le mouvement, le repos, le bien, le mal. Toutes les autres choses résultent des nombres. L'unité est l'impair, car si c'était le nombre 3, comment le nombre 5 serait-il impair? Enfin, à quelle limite y a-t-il quantité pour les grandeurs et les autres choses de ce genre? La ligne première est indivisible, puis la dyade, puis les autres nombres jusqu'à la décade. Ensuite, si le nombre est séparé, on pourrait se demander qui a la priorité, ou de l'unité, ou de la triade et de la dyade. En tant que les nombres sont composés, c'est l'unité. En tant que l'universel et la forme sont antérieurs, c'est le nombre. Chaque unité est une partie du nombre comme matière. Le nombre est la forme. De même, sous un point de vue, l'angle aigu est postérieur à l'angle droit parce qu'on le définit par le droit. Sous un autre point de vue, il est antérieur parce qu'il en est une partie, parce que l'angle droit peut se diviser en angles aigus. En tant que matière, l'angle droit, l'élément, l'unité sont donc antérieurs. Mais sous le rapport de la forme et de la notion substantielle, ce qui est antérieur, c'est l'angle droit. C'est le composé de la matière et de la forme. Car le composé de la matière et de la forme se rapproche plus de la forme et de la notion substantielle. Mais sous le rapport de la production, il est postérieur. Comment donc l'unité est-elle principe? C'est, dit-on, parce qu'elle est indivisible. Mais l'universel, le particulier, l'élément sont indivisibles aussi, non pas toutefois de la même manière. L'universel est indivisible dans sa notion, l'élément l'est dans le temps. De quelle manière, enfin, l'unité est-elle donc principe? L'angle droit, nous venons de le dire, est antérieur à l'aigu, et l'aigu semble antérieur au droit, et chacun d'eux est un. Dira-t-on que l'unité est principe sous ces deux points de vue? Mais cela est impossible. Elle le serait d'un côté à titre de forme et d'essence, de l'autre à titre de partie de matière. Il n'y a véritablement dans la dyade d'unité qu'en puissance. Si le nombre est, comme on le prétend, une unité et non un monceau, si chaque nombre est composé d'unités différentes, les deux unités n'y sont qu'en puissance et non en acte. Voici la cause de l'erreur dans laquelle on tombe. On envisage tout à la fois la question et sous le point de vue mathématique et sous le point de vue des notions universelles. Dans le premier cas, on considère l'unité et le principe comme un point, car la monade est un point sans position. Et alors, les partisans de ce système composent, comme quelques autres, les êtres avec l'élément le plus petit. La monade est donc la matière des nombres, et ainsi, elle est antérieure à la dyade. Mais sous un autre rapport, elle est postérieure, la dyade étant considérée comme un tout, une unité, comme la forme même. Le point de vue de l'universel amène à regarder l'unité comme le principe général. D'un autre côté, on la considère comme partie, comme élément, deux caractères qui ne sauraient se trouver à la fois dans l'unité. Si l'unité en soi doit seule être sans position, car ce qui la distingue uniquement, c'est qu'elle est principe, et la dyade est divisible, tandis que la monade ne l'est pas. Il s'ensuit que ce qui se rapproche le plus de l'unité en soi, c'est la monade. Et si c'est la monade, l'unité en soi a plus de rapport avec la monade qu'avec la dyade. Par conséquent, et la monade et l'unité doivent être antérieurs à la dyade. Mais on prétend le contraire. Ce qu'on produit d'abord, c'est la dyade. D'ailleurs, si la dyade en soi et la triade en soi sont l'une et l'autre une unité, toutes deux sont la triade. Qu'est-ce donc qui constitue cette dyade? Chapitre 9. On pourrait se poser cette difficulté. Il n'y a pas de contact dans les nombres, il n'y a que succession. Or, toutes les monades, entre lesquelles il n'y a pas d'intermédiaire, par exemple celle de la dyade ou de la triade, suivent-elles, oui ou non, l'unité en soi? La dyade est-elle antérieure seulement aux unités qui se trouvent dans les nombres suivants, ou bien est-elle antérieure à toute unité? Même difficulté pour les autres genres du nombre, pour la ligne, le plan, le corps. Quelques-uns les composent de diverses espèces du grand et du petit. Ainsi,
il compose les longueurs de long et de court, les plans de large et d'étroit, les solides de profond et de non profond. Toutes choses qui sont des espèces du grand et du petit. Quant à l'unité, considérée comme principe de ces nombres, il y a diverses opinions, et ces opinions sont pleines de mille contradictions, de mille fictions évidentes et qui répugnent au bon sens. En effet, les parties du nombre restent sans aucun lien si les principes eux-mêmes n'en ont aucun avec elles. On a séparément le large et l'étroit, le long et le court, et s'il en était ainsi, le plan serait une ligne, le solide un plan. Ensuite, comment rendre compte dans ce système des angles des figures, etc. Ces objets se trouvent dans le même cas que les composants du nombre, car ce sont là des modes de la grandeur. Mais la grandeur ne résulte pas des angles et des figures, de même que la longueur ne résulte pas du courbe et du droit, ni les solides, du rude et du poli. Mais il est une difficulté commune à tous les genres considérés comme universaux. Il s'agit des idées qui renferment un genre. Ainsi, l'animal en soi est-il dans l'animal ou en est-il différent? S'il n'en est pas séparé, il n'y a plus de difficulté. Mais s'il est indépendant de l'unité et des nombres, comme le prétendent les partisans de ce système, alors la solution est difficile. À moins que par facile, il ne faille entendre l'impossible. En effet, lorsqu'on pense l'unité dans la dyade, ou en général dans un nombre, pense-t-on l'unité en soi ou une autre unité? Le grand et le petit, tel est pour quelques-uns la matière des grandeurs. Pour d'autres, c'est le point. Le point leur paraît être non pas l'unité, mais quelque chose d'analogue à l'unité. Et une autre matière du genre de la quantité, mais non quantité. Les mêmes difficultés se reproduisent tout aussi bien dans ce système. Car s'il n'y a qu'une seule matière, il y a identité entre la ligne, le plan et le solide. S'il y en a plusieurs, une pour la ligne, une autre pour le plan, une autre pour le solide, ces diverses matières s'accompagnent-elles, oui ou non, l'une l'autre? On arrivera encore par là aux mêmes difficultés. Ou bien le plan ne contiendra pas la ligne, ou bien il sera une ligne. Ensuite, comment le nombre peut-il être composé d'unité et de pluralité? C'est ce qu'on ne songe point à faire voir. Quelle que soit la réponse, on arrive aux mêmes difficultés que ceux qui composent le nombre avec la dyade indéfinie. Les uns composent le nombre avec la pluralité prise dans son acception générale et non avec la pluralité déterminée. Les autres avec une pluralité déterminée, car la dyade est une sorte de pluralité première. Il n'y a aucune différence pour ainsi dire. Les mêmes embarras se rencontrent dans les deux systèmes relativement à la position, au mélange, à la production, et à tous les modes de ce genre. Voici une des plus graves questions qu'on puisse se proposer à résoudre. Si chaque monade est une, d'où vient-elle? Chacune d'elles n'est pas l'unité en soi. Il faut donc nécessairement qu'elle vienne de l'unité en soi et de la pluralité, ou d'une partie de la pluralité. Mais il est impossible de dire que la monade est une pluralité puisqu'elle est indivisible. Si l'on dit qu'elle vient d'une partie de la pluralité, il y a bien d'autres embarras. Car il faut de toute nécessité que chacune des parties soit indivisible ou qu'elle soit une pluralité. Et dans ce dernier cas, la monade serait divisible et les éléments du nombre ne seraient plus l'unité et la pluralité. Du reste, on ne peut pas supposer que chaque monade vient de la pluralité et de l'unité. D'ailleurs, celui qui compose ainsi la monade ne fait rien autre chose que donner un nombre nouveau, car le nombre est une pluralité d'éléments indivisibles. Et puis, il faut demander aux partisans de ce système si le nombre est fini ou infini. Ce doit être, à ce qu'il semble, une pluralité finie qui, jointe à l'unité, a produit les monades finies. Autre chose est la pluralité en soi. Autre chose, la pluralité infinie. Quelle pluralité et quelle unité sont donc ici les éléments? On pourrait faire les mêmes objections relativement au point et à l'élément avec lequel on compose les grandeurs. Il n'y a pas un point unique, le point générateur. D'où vient donc chacun des autres points? Ils ne viennent pas, assurément, d'une certaine dimension et du point en soi. Bien plus, il n'est pas même possible que les parties de cette dimension soient des parties indivisibles, comme le sont les parties de la pluralité avec lesquelles on produit les monades. Car le nombre est composé d'éléments indivisibles, mais non pas les grandeurs. Toutes ces difficultés, et bien d'autres du même genre, prouvent qu'à l'évidence il n'est pas possible que ni le nombre ni les grandeurs soient séparés. Ensuite, la divergence d'opinion entre les premiers philosophes au sujet du nombre montre le trouble continuel où les jette la fausseté de leur système. Ceux qui n'ont reconnu que les êtres mathématiques comme indépendants des objets sensibles ont rejeté le nombre idéal et admis le nombre mathématique, parce qu'ils avaient vu les difficultés, les hypothèses absurdes qu'entraînait la doctrine des idées. Ceux qui ont voulu admettre tout à la fois l'existence des idées et celle des nombres, ne voyant pas bien comment, en reconnaissant deux principes, on pourrait rendre le nombre mathématique indépendant du nombre idéal, ont identifié verbalement le nombre idéal et le nombre mathématique. C'est en réalité supprimer le nombre mathématique, car le nombre est alors un être particulier, hypothétique, et non plus le nombre mathématique. Le premier, qui admit qu'il y avait des nombres et des idées, sépara avec raison les nombres des idées. Il y a donc du vrai dans ce point de vue de chacun. Mais ils ne sont pas complètement dans le vrai. Eux-mêmes, ils confirment ce que nous venons d'avancer par leurs désaccords et leurs contradictions. La cause, c'est que leurs principes sont faux. Et il est difficile, dit Épicarme, de dire la vérité en parlant de ce qui est faux. Car, aussitôt qu'on parle, la fausseté devient évidente. Ces objections et ces observations doivent suffire relativement au nombre. Un plus grand amas de preuves ne ferait que convaincre davantage ceux qui sont déjà persuadés. Elles ne persuaderaient pas davantage ceux qui ne le sont pas. Quant aux premiers principes, aux premières causes et aux éléments, qu'admettent ceux qui ne traitent que de la seule substance sensible? Une partie de cette question a déjà été traitée dans la physique. L'étude des autres principes n'entre pas dans nos recherches actuelles. Nous devons maintenant étudier à leur tour ces autres substances que quelques autres philosophes font indépendantes des substances sensibles. Il en est qui ont prétendu que les idées et les nombres sont des substances de ce genre et que leurs éléments sont les éléments et les principes des êtres. Il faut examiner et apprécier leur opinion à cet égard. Quant à ceux qui admettent seulement les nombres, et qui en font des nombres mathématiques. Nous nous occuperons d'eux par la suite. Mais nous allons examiner le système de ceux qui admettent les idées et voir les difficultés qui s'y rattachent. Et d'abord, ils considèrent à la fois les idées comme des essences universelles, puis comme des essences séparées, puis comme la substance même des choses sensibles. Or, nous avons montré précédemment que cela était impossible. Ce qui fit que ceux qui posent les idées comme essence universelle les réunirent ainsi en un seul genre, c'est qu'il ne donnait pas la même substance aux objets sensibles. Il pensait que les objets sensibles sont dans un flux perpétuel et qu'aucun d'eux ne persiste, mais qu'en dehors de ces êtres particuliers, il y a l'universel, et que l'universel a une existence propre. Socrate, comme nous l'avons dit précédemment, s'est bien occupé de l'universel dans les définitions, mais il ne l'a point séparé des êtres particuliers, et il a eu raison de ne l'en point séparer. Une chose est prouvée par les faits, c'est que sans l'universel, il n'est pas possible d'arriver jusqu'à la science. Mais la séparation du général d'avec le particulier est la cause de toutes les difficultés qu'entraînent les idées. Quelques philosophes, croyant qu'il fallait nécessairement, s'il y a d'autres substances que les substances sensibles et qui s'écoulent perpétuellement, que ces substances fussent séparées. Et, d'un autre côté, ne voyant pas d'autres substances, admirent ces essences universelles. De sorte que, dans leur système, il n'y a presque aucune différence de nature entre les essences universelles et les substances particulières. C'est là, en effet, une des difficultés qu'entraîne avec elle la doctrine des idées. Chapitre 10. Nous avons dit au commencement, dans la position des questions à résoudre, quels embarras se présentent, et si l'on admet, et si l'on rejette la doctrine des idées. Revenons-y maintenant. Si l'on veut que ce ne soit point des substances séparées, à la manière des êtres individuels, alors on anéantit la substance, telle que nous la concevons. Si l'on suppose, au contraire, des substances séparées, comment se représenter leurs éléments et leurs principes? Si ces éléments sont particuliers et non des universaux, il y aura autant d'éléments que d'êtres, et il n'y aura pas de science possible des éléments. Supposons, par exemple, que les syllabes qui composent le mot soient des substances, et que leurs éléments soient les éléments des substances. Il faudra que la syllabe « ba » soit une, ainsi que chacune des autres syllabes. Car, si elles ne sont pas des universaux et ne sont point identiques par un rapport de l'espèce, chacune d'elles est en nombre. Elle est un être déterminé, seul de son espèce. Ensuite, dans cette hypothèse, chaque syllabe est à part et indépendante. Et, si telles sont les syllabes, telles seront aussi les éléments des syllabes, de sorte qu'il n'y aura pas plus d'un seul A. Et de même pour chacun des autres éléments des syllabes, en vertu de ce principe que, parmi les syllabes, la même ne saurait jouer des rôles différents. Or, s'il en est ainsi, il n'y aura pas d'autres êtres en dehors des éléments. Il n'y aura que des éléments. Ajoutez qu'il n'y a pas de science des éléments, car ils n'ont pas le caractère de la généralité, et la science embrasse le général. C'est ce qu'on voit clairement dans les définitions et les démonstrations. On ne conclurait pas que les trois angles de tel triangle particulier égalent deux angles droits, si les trois angles de tout triangle n'égalaient pas deux droits. On ne dirait pas que cet homme est un animal si tout homme n'était pas un animal. Si d'un autre côté, les principes sont universels, ou s'ils constituent des essences universelles, ce qui n'est pas substance sera antérieur à la substance, car l'universel n'est pas une substance, et les éléments et les principes sont des universaux. Toutes ces conséquences sont légitimes si l'on compose les idées d'éléments, si l'on admet qu'indépendamment des idées et des substances de même espèce, il y a une autre substance séparée des premières. Mais rien n'empêche qu'il en soit pour les autres substances comme pour les éléments des sons, où l'on a plusieurs A, plusieurs B, servant à former une infinité de syllabes sans que pour cela il y ait, indépendamment de ces lettres, l'A en soi et le B en soi. La plus importante des difficultés que nous ayons énumérées est celle-ci. Toute science porte sur l'universel. Il faut donc nécessairement que les principes des êtres soient des universaux et non des substances séparées. Cette assertion est vraie sous un point de vue. Sous un autre, elle ne l'est pas. La science et le savoir sont doubles en quelque sorte. Il y a la science en puissance et la science en acte. La puissance étant pour ainsi dire la matière de l'universel et l'indétermination même appartient à l'universel et à l'indéterminé. Mais l'acte est déterminé. Tel acte déterminé porte sur tel objet déterminé. Cependant, l'œil voit accidentellement la couleur universelle parce que telle couleur qu'il voit est une couleur en général. Cet A particulier qu'étudie le grammairien est un A en général, car s'il est nécessaire que les principes soient universels, ce qui en dérive l'est nécessairement aussi, comme on le voit dans les démonstrations. Et s'il en est ainsi, rien n'est séparé, pas même la substance. Toutefois, il est clair que sous un point de vue, la science est universelle et que sous un autre, elle ne l'est pas. Fin du livre 13e.